Nous sommes ce peuple de bâtisseurs. Nous avons tant à reconstruire. Alors oui, nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Nous le pouvons.
Alors c'est Emmanuel Macron qui, ouais, dans un court texte de 6 minutes à la nation française, lançait cet ultimatum, cet objectif très audacieux. Et Marie-France, d'entrée, je peux dire, pourquoi 5 ans? Parce que dans 5 ans, les Jeux olympiques seront présentés, les Jeux olympiques d'été, à Paris, en 2024, à partir du 26 juillet.
Absolument. Et sur mon fil Twitter cet après-midi, le gros raté a écrit « Notre-Dame pourrait être reconstruite avant qu'on puisse circuler en SRB sur P9. » C'est bonne, c'est te dire. 5 ans, c'est vraiment court.
Oui, c'est pas mal bon.
Oui, tu parles des Jeux olympiques, mais il faut aussi dire l'industrie touristique parisienne qui est très, très, très importante et une fin de quinquennat, enfin un quinquennat dont la fin serait marquée par l'inauguration de Notre-Dame de Paris pour Emmanuel Macron. Enfin, il s'en irait vers ça. Donc, il y a quelques raisons, mettons, qui font qu'il veut que ça accélère. D'abord, il va falloir penser à des travaux d'urgence. On n'est même pas là. Il va falloir installer ce qu'ils appellent un parapluie, un immense dôme pour protéger de l'eau et des voleurs, parce qu'il y a un constat, le feu et l'eau sur le calcaire, c'est un puissant facteur de déstabilisation. Ensuite, ben là, il y a l'épineux dossier de la restauration qui pose de merveilleuses questions. Comment est-ce qu'on rénove? Est-ce qu'on rénove avec des techniques anciennes, avec les nouvelles technologies? Et qu'est-ce qu'on fait exactement? Comment allons-nous reconstruire ça? Et ça, ça prend du temps à réfléchir à ça. L'argent, évidemment, ne sera pas un problème, on l'a vu déjà, mais l'histoire du temps est vraiment importante. C'est pas un centre commercial là, qu'on s'en va reconstruire. C'est vraiment un lieu chargé de symboles, un lieu important pour les Parisiens, pour les Français, mais pour tous les Occidentaux et les chrétiens occidentaux. C'est vraiment un lieu chargé d'histoire, de culture et de foi. Alors, il va y avoir tout un débat d'experts sur le sens. Il le faut, ce débat-là. Il le faut absolument. Et 5 ans, c'est donc aller trop vite, c'est faire l'économie d'une réflexion. C'est probablement aussi faire l'économie d'un travail minutieux. Il y a tous ces artisans qui vont devoir travailler, aussi bien des artisans du verre que ceux qui vont rénover, restaurer les facteurs d'orgue. Il va falloir également penser à tous ces travailleurs de la pierre, ces sculpteurs sur pierre. C'est un travail extrêmement minutieux et ça se fait pas en criant ciseaux, même ciseaux à pierre.
Si tu me permets, parce que je trouve ça tellement triste. On en parle peu d'ailleurs. C'est il va falloir restaurer les vitraux.
Oui.
Et ça, ça va être un travail considérable.
Absolument.
Il va falloir faire d'abord le bilan de l'état de la situation
Mais
des grandes rosaces.
Mais c'est ça, juste le bilan, les grandes rosaces, effectivement, l'orgue, tout ça demande du temps. Avant même qu'on commence à travailler, il faut avoir évaluer l'état de la situation, puis après ça, réfléchir à comment on va le faire, puis après ça, le faire. 5 ans, ça me semble vraiment, vraiment précipité. Emmanuel Macron a annoncé un concours international d'architecture pour la flèche. Alors déjà, on se pose la question, est-ce qu'on va la construire à l'identique ou on va l'adapter aux enjeux et aux techniques de notre époque? Et la flèche elle-même, il y avait celle de Viollet-le-Duc qui datait du 19e siècle, celle qu'on a vue tomber sous nos yeux, mais elle avait remplacé une autre qui était bâti au 13e siècle, qui s'approchait beaucoup plus du clocher et qui a été démonté à l'époque de la Révolution. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va utiliser des techniques modernes ou on va la reconstruire en bois? Et puis, pourquoi pas une signature du 21e siècle? Une cathédrale, c'est la vie, c'est le temps qui passe. Ça peut être complètement fou. On pense à la Sagrada Familia à Barcelone qui est d'une folie artistique qui s'éloigne complètement du classicisme des cathédrales. À Rouen, on a reconstruit la flèche en fond, donc nouveaux matériaux, technologie plus récente. La charpente également, qui était en bois, on dit qu'elle était vivante, qu'elle avait une odeur à part. Est-ce qu'on va la refaire en bois? Est-ce qu'on va la faire en béton comme à Reims? Est-ce qu'on va la faire en métal comme à Chartres, comme à Saint-Denis? Et puis, c'est toute la question, justement, comme je te disais, c'est vivant une cathédrale. Les nouveaux symboles se superposent, ce sont des couches de sens, ça aspire toujours vers Dieu, c'est toujours une vision ascensionnelle, mais ça change. Toujours, je te le disais hier, toujours les cathédrales ont été à la fine pointe de la modernité. L'art gothique qui a remplacé l'architecture romane, c'était d'une modernité, on avait assimilé de nouvelles techniques, de nouvelles manières de faire avec la pierre qui permettaient permettait d'insérer le verre, les fameux vitraux dont tu parlais, ben c'était de la modernité à l'époque.
C'est vrai.
Et on continue sans cesse à... Alors là, on parle de faire, par exemple, des sculptures, les gargouilles, on pourrait les faire en impression 3D. Est-ce qu'on veut aller jusque-là? C'est possible de le faire. Est-ce qu'on veut faire appel, quand on parle d'architectes internationaux, est-ce qu'on, et français aussi, parce qu'il y a vraiment ce qu'on appelle des star-architectes, des architectes qui sont vraiment des stars, dont le nom est presque aussi important que les réalisations. Est-ce qu'on va se payer ça pour le clocher, pour la flèche, pardon, de Notre-Dame?
Mais pourquoi pas? Ils l'ont fait pour le Louvre et c'est paye.
Absolument.
L'architecte qui a gagné le concours.
C'est ça. On ne reconstruisait pas, mais on donnait une signature au Louvre et ça s'intègre
parfaitement. Oui, mais attends une minute, on avait parlé d'un sacrilège. Et pourtant, quand on y va, c'est magnifique, cette grande pyramide de verre.
Tout à fait. Mais là, moi, je suis vraiment pour cette... ça serait vraiment une très belle signature qu'il y ait un clocher... pardon, pas un clocher, c'est vraiment une flèche, c'est autre chose qu'un clocher.
Oui, c'est une flèche.
Une flèche vraiment qui relie la cathédrale au ciel et que ce soit une signature vraiment très contemporaine, très 21e siècle, qui ajoute une autre couche de symbole et de sens à ce lieu magique. Mais ça va être vraiment un énorme débat. La Fenice, ce théâtre magnifique à Venise, avait brûlé il y a plusieurs années et on l'a reconstruit vraiment à l'identique. La pyramide du Louvre, c'est pas une reconstruction, mais comme tu dis, c'est vraiment un symbole moderne extrêmement marquant qui s'inscrit très bien dans l'ancien. Alors, il faudra voir comment on va faire du sens, mais faire du sens, ça prend plus que 5 ans. C'est vraiment, ça me semble tout à fait irréaliste.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui partagent ton opinion que 5 ans, c'est beaucoup trop court.
À commencer par des historiens de l'art en France.
Ouais. Bon, la très mauvaise bonne blague l'impayable députée Eva Torres.
Oui, Eve Torres, en fait, cette ex-candidate de Québec solidaire à Outremont, elle participait à la joute. Je pense qu'elle vient d'être suspendue des débats. Elle a fait sur Facebook cette blague, je te lis, « Quand tu interdis aux autres de porter leur signe religieux, tu fâches notre ami imaginaire, puis voilà le résultat. Moi, je serai le go. Je ferai dormir les pompiers à la basilique Notre-Dame de Montréal, bien sûr. » Elle l'a retiré quelques heures plus tard et elle a présenté hier ses excuses sur Facebook. Qui est Eve Torres? C'est une Française convertie à l'islam. Elle porte le voile et le revendique hautement et fièrement. C'est une ex-lobbyiste pour le Conseil musulman canadien, un groupe très militant, très pro-islam, très communautariste, dont certains membres d'ailleurs ont même eu des velléités pro-charia. Je ne te dis pas que elle, mais des membres du Conseil musulman. Elle était membre du comité stratégique au sein de Québec solidaire, responsable de la stratégie en vue de la prochaine élection, donc jusqu'à tout récemment. Et est-ce que c'est une blague? C'est vraiment une joke absolument lamentable et la gauche extrême est venue à son secours disant que c'était une blague provocatrice, que c'était de l'autodérision, que c'était de la satire contre l'islamophobie ambiante. Crier au terrorisme parce qu'elle est musulmane, ça aussi c'est de l'islamophobie. Donc on l'a défendue dans son groupe et chez ses amis. Mais c'est littéralement un appel au terrorisme sous couvert d'un humour extrêmement douteux. Dans des cas de drame comme celui que vit Paris en ce moment, il y a des contextes, il y a un temps, il y a des moments graves et il y a des moments où on se retient de faire des blagues. Et c'est surtout d'une insensibilité et d'un manque de jugement cruel pour quelqu'un qui était responsable de la stratégie électorale. C'est vraiment particulier. Et elle fait un amalgame. Elle associe donc le projet de loi 21 à des représailles contre les catholiques et elle se réjouit de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Mais c'est une joke. Donc, c'est vraiment un peu court comme excuse, vraiment, vraiment un peu court. Et qu'en pense, que dit Québec solidaire? Ben Manon Massé, hier, s'est distancée. Elle a dit que ça pourrissait l'espace public, ce en quoi elle a tout à fait raison. Elle a demandé rétractation, ce qui fut fait. Mais Québec solidaire a souvent des alliés, et là, c'est vraiment en son sein, souvent des alliés un peu spécieux. Je pense à Ruba Gazal, pourtant une fille assez sensée, qui est allée s'asseoir en fin de semaine, dimanche, dans ce débat aux côtés de Ali Zbetti qui...
Sans savoir qui il était.
Ben là, sans savoir, quand ton nom et ta photo sont sur une affiche à côté de lui pour participer à un débat, tu te renseignes quand même sur avec qui tu vas.
Je sais très bien, je te dis ça un peu en guise de boutade.
Mais oui. Ben oui, c'est ça. C'est vraiment très, très, très particulier. Donc, Québec solidaire devrait vraiment faire attention à ses allégeances et à ses amitiés et à ses alliés. Mais dans le cas de Ève Torres, ça jette le discrédit sur LCN, sur son parti. Ça contribue, comme le disait Manon Massé, à pourrir le débat. Et puis, ça donne des points, finalement, au très, très calme Simon Jolin-Barrette, comme quoi les adversaires les plus bruyants du projet de loi 21 sont très souvent des weirdos, mais qui font de l'humour.
Fait, ce qu'on croit être de l'humour. Enfin,
hey, on manque pas d'humoristes, hein?
Non, on en a beaucoup, et d'influenceurs.
D'influenceurs aussi.
Je pense qu'il y a plus d'influenceurs et d'influenceuses que d'humoristes en ce moment.
Ah, oh, ça doit être à égalité.
Alors, le passionnant débat de la reconstruction de Notre-Dame, on n'a pas fini d'en parler, toi et moi, Marie-France.
Ah, oh, non, puis on va vraiment
suivre
ça.
Moi, je m'occupe des vitraux, hein, oublie pas.
Oui, OK, puis moi, je m'occupe de la flèche.
La flèche? Tu vas t'occuper de la flèche, Marie-France?
Oui, ils ont retrouvé le coq.
Oui.
Et ah, c'est fabuleux.
Ah, c'est fabuleux. Le coq était au sommet de la flèche.
Oui, qui contenait 3 reliques.
Oui.
C'est complètement incroyable. La flèche qui est tombée.
Il y a de l'espoir.
Et, oui, il y a quelque chose de magique là-dedans.
Merci beaucoup, Marie-France.
À demain.